L'artiste israélienne Keren Goldstein, yes, qu'elle importe le projet She's Gone, une exposition itinérante qui se propose de collecter dans chacun des pays visités des tenues qui ont appartenu à des femmes victimes de féminicides, et ce pour dénoncer les violences faites aux femmes. La semaine dernière, cette exposition était à Bruxelles. Lucie Gilson s'y est rendue et voilà le reportage qu'elle nous a rapporté.
Hi, my name is Keren Goldstein.
Je m'appelle Keren Goldstein Yeheskel. Je suis la créatrice de cette installation She's Gone. J'ai choisi l'art pour protester, parce que je pense que l'art est un outil très efficace pour créer et alerter, car il est très difficile d'attirer l'attention des gens de nos jours. Ce qu'on fait en général, c'est contourner notre esprit et nos pensées. Et ce que l'art fait va directement dans nos cœurs. Et surtout ici, parce qu'on peut sentir le vêtement, on peut le toucher, on peut le sentir. C'est très vivant et vous ne pouvez pas l'ignorer. Par cette expérience, j'espère planter des graines dans le cœur des gens. L'idée de cette exposition m'est venue il y a 6 ans lorsque j'ai entendu parler d'un meurtre en Israël où une femme a été assassinée avec ses 2 jeunes garçons par son partenaire, son mari, et elle était très jeune. Elle n'avait que 23 ans. Je me souviens que cela a été un tournant dans ma vie parce que je me suis sentie très en colère. Je me suis donc dit qu'il fallait que je trouve un moyen de transmettre cette colère pour sensibiliser les gens. Comme je suis une artiste, je me devais d'exprimer ce sentiment sans utiliser des mots, avec des images. Et puis je me suis demandé ce qu'il advenait des vêtements de ces victimes de violences domestiques et de féminicides. C'est ainsi que tout a commencé. J'ai commencé à collecter des tenues en Israël. J'ai demandé à mon amie de m'accompagner parce que j'avais un peu peur et que j'hésitais sur la façon d'approcher les familles, c'est un peu délicat. Elle est donc venue avec moi. Nous avons rencontré les familles et nous avons reçu 11 tenues de femmes assassinées chez elles en Israël, à l'endroit où elles étaient censées être le plus en sécurité, dans leur maison, en bonne santé et heureuse. Notre opération a donc débuté en Israël et puis nous avons été invités à exposer dans d'autres pays parce que, assez ironiquement, je dois dire, l'exposition a connu un grand succès, un grand engouement. Elle a vraiment ému les gens, elle les a touchés en plein cœur. Et ensuite, à chaque fois que nous nous arrêtions dans un pays, nous récoltions une tenue d'une victime locale. Et ce, pour une raison simple, ce n'est pas un phénomène isolé, c'est un phénomène mondial. Nous avons donc commencé ce voyage et j'espère le terminer un jour devant le bâtiment des Nations Unies, non pas avec 26 vêtements comme c'est le cas aujourd'hui, mais avec 200 vêtements pour y crier que nous exigeons la fin des violences à l'égard des femmes, domestiques et sexuelles et toutes les sortes de violences. C'est vrai qu'on m'a demandé à plusieurs reprises si c'était le bon moment pour présenter cette exposition et je réponds que oui, c'est le bon moment parce que c'est toujours le bon moment pour parler de ça, pour demander de mettre fin à la violence domestique et d'autant plus en temps de guerre, comme aujourd'hui où les femmes israéliennes paient un prix très très élevé. En Israël, elles ont été kidnappées, violées, elles ont été assassinées et l'ONU n'a même pas enquêté sur tous ces cas. Et ces voix ont été ignorées ou on les a fait taire brutalement. Alors oui, c'est le moment d'être leur voix et de parler en leur nom et au nom de leur famille. C'est le moment idéal pour en parler. Pouvez-vous nous expliquer un peu le déroulement de l'exposition? Vous rassemblez des vêtements de femmes tuées essentiellement sur la base de leur genre. Il s'agit de votre première étape ou d'une tournée en Europe? Non, non, ce n'est pas la première étape. Nous avons déjà visité le Costa Rica, le Honduras, l'Espagne, la France, la Grèce et la République tchèque à Prague. Et nous avons même des vêtements en provenance des États-Unis. Donc non, ce n'est pas notre première étape. En fait, nous sommes un peu dans une tournée mondiale. Pouvez-vous choisir un des objets et expliquer un peu l'histoire de son ancien propriétaire ? Oui, je peux parler du premier vêtement que j'ai collecté, si vous voulez. Il appartient à une jeune fille de 19 ans. Elle s'appelait Alia Hill et venait du secteur arabe d'Israël. Elle a été assassinée alors qu'elle n'avait que 19 ans. Elle était étudiante en médecine. Elle avait fait ses études en Moldavie et était venue en Israël pour rendre visite à sa famille. Son petit ami a supposé qu'elle ne se comportait pas correctement en tant que femme. Et donc, il l'a battue à mort. Je me sens donc très attachée à cette tenue parce que c'est la première que j'ai récoltée. Mais d'une certaine manière, je fais confiance à la jeune génération pour combattre.
Thank you very much and best of luck.
Thank you very much. My name is Orit Suliciano.
Je m'appelle Orit Suliciano. Je suis la directrice de l'association des centres d'aide aux victimes de viol en Israël. Nous avons 9 centres qui travaillent au niveau local et nous aidons les survivantes de violences sexuelles. Nous aidons à changer les politiques publiques, à changer les lois, à donner plus de choses à faire dans la vie de tous les jours. Quelques jours après le 7 octobre, nous avons appris que des violences sexuelles avaient eu lieu en Israël. Comment avons-nous obtenu cette information ? Ce n'était pas quelque chose qui arrivait d'ordinaire. Personne ne le savait à ce moment-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que les premiers intervenants, les thérapeutes, les médecins ont commencé à nous appeler pour nous faire part de toutes sortes de choses qu'ils avaient vues sur les survivants. Les survivants qui présentaient des signes de violence sexuelle. Au fil des jours, de plus en plus d'informations sont arrivées, des indices par-ci, par-là. C'était comme un puzzle. Il y a environ un mois, nous avons publié un premier rapport en Israël. Ce rapport posait deux questions. Où les agressions se sont-elles produites et comment ces agressions se sont-elles passées? Quelles étaient exactement les exactions du Hamas? Ce que nous avons découvert tout d'abord, c'est que les violences sexuelles ont eu lieu dans des endroits comme les kibbutzim, les moshavim, le festival Nova, les bases de l'armée, mais aussi en captivité, là où les otages sont détenus. La deuxième chose que montrent les données que nous avons collectées, et je vais être un peu plus explicite, c'est que nous avons découvert sur les scènes sur lesquelles nous avons enquêté qu'ils avaient tous le même modus operandi, c'est-à-dire que les mêmes choses s'étaient produites encore et encore. Par exemple, la mutilation des corps. Sur certains corps, il y avait vraiment une volonté de les mutiler. Certains corps ont été sectionnés en de multiples endroits, des membres arrachés. Et en fait, c'était un ordre extérieur. Quelqu'un leur a demandé de faire cela. Sinon, comment c'est possible de répéter ce genre de choses?
Gang rape happens also in other wars, and there are witnesses of gang rape. And the fourth thing is that, you know, many bodies, like, they were cut off limbs of people, of women. So the big picture we understood is what happened in Israel was not some sporadic thing that happened in one place.
C'est pas quelque chose qui... Ça s'est passé le 7 octobre, mais ça ne s'est pas produit seulement là.
Vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne faisiez pas partie de l'équipe juridique pour la plainte qui a été déposée à La Haye par les familles des otages et des personnes disparues. Pensez-vous que cette plainte va avoir un impact à un moment ou à un autre ?
Je n'en suis pas sûre. Je peux vous dire ce que je sais, ce que je pense, et qu'il y a une différence entre les otages et les autres. Certains otages relâchés maintenant commencent à parler. La parole se délie. Mais au moment du 7 octobre, aucune preuve médico-légale n'a vraiment été recueillie en Israël, car on était tous en état de choc. C'était un grand chaos. Ce n'était pas possible de prendre des photos de ces scènes. Il y avait des missiles dans le ciel, des terroristes juste à côté dans le kibbutz. En fait, moi, je ne pense pas qu'une procédure légale peut aboutir à une vraie solution. Pourquoi ? Tout d'abord, même si les survivants osent parler, si la parole se délie un jour, je ne pense pas que beaucoup iront porter plainte à la police. Parce que à quoi ça sert ? Qu'est-ce que la victime va en retirer ? Seulement de la souffrance.
Comment rendre la justice alors ?
Ben, il faut s'occuper des victimes. La première chose, c'est la reconnaissance de ce qui est arrivé. Je suis venue d'Israël à Bruxelles pour en parler parce que les gens ne croient pas que nous avons vécu ça. Il y a très peu de gens dans le monde qui comprennent vraiment ce qui s'est passé. Mais vous savez, quel que soit votre bord politique ou votre opinion sur ce qu'Israël fait à Gaza, et je compatis à ce qui se passe à Gaza, c'est un vrai problème, il faut s'en rendre compte, ça n'est pas facile, beaucoup de gens souffrent, mais ça n'est pas pour autant que nous ne devons pas nous protéger. Vous demandez à une femme en Israël aujourd'hui, si vous faites une enquête, combien de femmes se sentent bien. La violence sexuelle qui a eu lieu en Israël est effarante. Beaucoup de gens ont peur que le Hamas débarque de nouveau. Les femmes ont peur que quelqu'un vienne chez eux et les viole. Je pense que plus de 90% des femmes israéliennes vous diront qu'elles ont peur que ça arrive de nouveau, et je m'inclus dans cette statistique.
J'ai une question subsidiaire. Les Nations Unies ont publié un rapport il y a quelques semaines indiquant que ce genre de violence s'est réellement produit. Qu'en pensez-vous ?
J'ai rencontré l'équipe de Pramila Patel. J'ai été très impressionnée par son sérieux et son équipe. Ils m'ont semblé très engagés dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Je pense que ce rapport est très important. Je n'ai qu'une seule chose à critiquer, c'est que dans leur rapport, ils disent qu'il n'y a pas de motif, il n'y a que des motifs raisonnables pour confirmer qu'il s'agissait bien des exactions du Hamas. Mais bon, je pense que c'est important qu'ils ont fait un travail sérieux et c'est une bonne chance que ce soit la première fois qu'un organisme international reconnaisse ce qui s'est passé. Bien sûr, Israël est un pays juif, mais chaque être humain doit lutter contre ce déni. Parce que ce qui nous est arrivé, vous savez, les musulmans extrémistes, pas tous les musulmans, ça peut arriver partout, même ici, à Bruxelles. Ce genre de comportement barbare peut se reproduire ailleurs dans le monde. Donc, nous devons tous nous battre contre ça et c'est un grand combat. Donc, j'espère que ce rapport, c'est un premier pas, mais ça n'est pas suffisant car ce n'était pas possible de constater les viols. C'est très difficile, les blessures ne sont pas visibles. On est venu ici pour cette exposition sur la violence domestique. Parfois, on comprend que c'est possible de constater les violences domestiques. Il y a des blessures externes, des contusions sur les bras, des traces. Mais pour un viol, on ne peut pas voir si on n'était pas là. Et c'est là où le bas blesse. On demande de prouver les viols. On veut aujourd'hui, dans une ère où on veut tout prouver. Ce que je dis, c'est que si la Shoah était arrivée aujourd'hui, peut-être que peu de monde l'aurait vraiment cru. On nous aurait demandé de rassembler des preuves tangentes sur tout.